Vous écoutez On lit pour vous.
Une démocratie qui résiste malgré tout. Un texte de Sébastien Tanguay, paru le 21 février 2026 dans Le Devoir. Le président Donald Trump et sa coterie ont beau tordre l'état de droit dans tous les sens, les États-Unis ne sont pas à la veille de sombrer dans la dictature. La démocratie américaine a du ressort, même si les sources d'inquiétude demeurent nombreuses avec une présidence qui persécute ouvertement ses ennemis et qui a déjà tenté de renverser le résultat d'une élection. Au cours du premier mandat de Donald Trump, peu de gens accolaient le mot en F au président et à son gouvernement. Claironner « grab them by the pussy », ridiculiser un reporter handicapé ou entretenir une relation épistolaire avec Kim Jong-un trahissait peut-être l'âme d'un goujat, d'un idiot ou d'un naïf, sans pour autant le qualifier au titre de fasciste. Personne, ou presque, ne risquait l'épithète. Les tyrans, après tout, ne gazouillent pas coffe-féfé au milieu de la nuit. Si Donald Trump incarnait un archétype au cours de son premier mandat, c'était celui du bouffon bien plus que celui du despote. Une émeute au Capitole et un retour à la Maison-Blanche plus tard, le ton a changé à l'égard du milliardaire. À preuve, le fascisme est un terme de plus en plus employé pour décrire sa deuxième présidence. Le général John Kelly, ancien directeur de cabinet de Donald Trump, avait dénoncé les instincts autocratiques de ce dernier pendant la plus récente campagne présidentielle. Dès le lendemain, 13 anciens collaborateurs du seigneur de Mar-a-Lago avaient partagé les inquiétudes du général dans une lettre ouverte. Quand Donald Trump dit qu'il veut être un dictateur dès le jour 1 et déployer l'armée contre des citoyens américains qu'il considère comme des ennemis intérieurs, il est sérieux, avaient écrit les signataires. Un an après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, d'autres observateurs parviennent au même constat. Un éditorial du New York Times, paru mi-février 2026, a indiqué que le navire américain s'aventurait de plus en plus dans les eaux de la dictature. Dans un texte au titre sans équivoque « Oui, c'est du fascisme », publié dans le magazine The Atlantic à la fin de janvier 2026, l'éminent chercheur de l'Institut Brookings, Jonathan Rauch, dresse une liste de 18 arguments qui justifient, à ses yeux, l'emploi de ce terme pour désigner Donald Trump. C'est une combinaison de facteurs qui, mis ensemble, montre que Donald Trump n'est pas juste un gars avec des pulsions autoritaires, indique-t-il au Devoir. C'est quelqu'un qui a une politique et une idéologie fasciste. Le nationalisme exalté du sang et de la terre, la mise en doute de la légitimité électorale, la déshumanisation des adversaires politiques, la glorification à outrance de la violence. Voilà autant de raisons qui expliquent, selon Jonathan Rauch, le glissement fasciste de Donald Trump. La vendetta judiciaire promise en campagne par le président, qui a mené, selon Reuters, à la poursuite d'au moins 470 rivaux avérés ou fantasmés entre les mois de janvier et de novembre 2025, soit plus d'une cible par jour en moyenne, la violence vue à Minneapolis et la philosophie admise en onde par le conseiller à la sécurité intérieure, Stephen Miller, sorte d'éminence grise de Donald Trump, voulant que la loi du plus fort gouverne le monde depuis la nuit des temps, ont fini de le convaincre que la nuance n'était plus de mise. C'était douloureux d'arriver à ce constat, explique Jonathan Roach. C'est un article que, bien franchement, j'aurais préféré ne jamais devoir écrire. La démocratie est à risque aux États-Unis. J'ignore où et comment ça s'arrêtera, mais je sais que c'est une situation critique. La Constitution tient bon. Certes, l'érosion de l'État de droit sous les assauts d'une présidence qui ne cache plus ses tendances autoritaires a de quoi inquiéter. Il faut toutefois prendre garde avant de conclure que les États-Unis s'apprêtent à sombrer dans la dictature, estime Christophe Roy-Cloutier, chargé d'enseignement au département de sciences politiques de l'Université Laval et directeur adjoint de l'Observatoire des États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. C'est difficile de croire que le pays pourrait connaître une dictature durable comme dans d'autres pays, note-t-il. Je ne vois pas le jour où un gouvernement suspendrait la Constitution par une loi martiale ou par l'adoption d'une nouvelle constitution autoritaire. Le gouvernement fédéral aux États-Unis est contraint par de nombreux contre-pouvoirs. En plus des branches législatives et judiciaires qui viennent faire contrepoids aux ambitions de l'exécutif, la Maison-Blanche doit aussi composer avec 50 États qui ont chacun leur propre appareil de gouvernance et leur propre indépendance. Outre la prévalence de la Constitution sur la société américaine, deux autres facteurs encouragent l'optimisme prudent de Christophe Roy-Cloutier. La bisbille interne à la Maison-Blanche et les sondages. L'autoritarisme a besoin de l'indifférence de la population pour s'enraciner, souligne Christophe Roy-Cloutier. Mais Trump, avec à peine 40 % d'appui, est ultra impopulaire. La population américaine n'accepte vraiment pas ce qu'il est en train de faire, et il y a encore une société civile importante qui est capable de s'exprimer malgré les risques que ça comporte. L'âge de Donald Trump, qui soufflera ses 80 bougies en juin, invite aussi à la prudence avant de prononcer l'oraison funèbre de la démocratie américaine. Il faut vraiment garder en tête que le mouvement MAGA, c'est Trump, avance le directeur adjoint de l'Observatoire sur les États-Unis. Ça commence par Trump et ça finit par Trump. Sans successeur désigné, ni possibilité de briguer un troisième mandat en 2028, Donald Trump risque donc d'emporter la cabale MAGA dans la tombe. Et si un ennui de santé l'empêchait de finir son mandat, il y aurait tout lieu de penser que ce serait l'implosion totale de son gouvernement, parce que tout le monde se déteste cordialement à l'interne. Il n'y a pas d'unité, ajoute Christophe Roy-Cloutier. C'est un facteur capable de compromettre sérieusement la pérennité d'une éventuelle dictature. Président fasciste dans un pays démocratique. Les États-Unis vivent présentement dans un régime mixte, estime Jonathan Roach, où un leader fasciste gouverne un pays extrêmement polarisé, mais où la discorde demeure encadrée par une constitution libérale. Il ne peut pas contrôler les cours de justice, il ne peut pas contrôler les États, il ne peut pas contrôler les médias et, surtout, il ne peut pas contrôler l'opinion publique, énumère Jonathan Roach. C'est son plus grand échec jusqu'à maintenant. Plus son impopularité grandit, plus c'est difficile pour lui de manœuvrer pour obtenir la loyauté du Parti républicain. N'en demeure pas moins que les dommages causés par le gouvernement en place sont incalculables, selon le chercheur de l'Institut Brookings. Pensez seulement à la perte de confiance entre nos deux pays. Ça va prendre une génération pour réparer cette relation. Les pouvoirs que Donald Trump s'arroge constituent également un instrument de domination susceptible d'intéresser les personnes qui prendront place après lui dans le bureau ovale. Les maîtres du monde abandonnent rarement leur pouvoir, ajoute M. Roach. Et le pouvoir de persécuter vos ennemis et de protéger vos amis est peut-être le plus grand que vous puissiez vous arroger sur la scène intérieure. Il a perverti l'appareil de justice et créé un monstre avec une force paramilitaire fédérale. Ça pourrait, malheureusement, avoir des conséquences à long terme. C'était Une démocratie qui résiste malgré tout. Un texte de Sébastien Tanguay, paru le 21 février 2026 dans Le Devoir.
Une démocratie branchée sur nos valeurs ou sur des serveurs californiens? Un texte d'Éric Tétrault, publié le 25 novembre 2025 dans Le Devoir. Les divers ordres gouvernementaux doivent montrer l'exemple. Investir ici, parler ici, rayonner ici. Nos racines longueuilloises nous ont légué un réflexe rare et précieux, celui d'incarner et de défendre notre culture locale. Au FM 103,3, on fait jouer 100% de musique francophone aux heures de grande écoute, par choix et non par obligation. Depuis plus de 20 ans, la Disque reconnaît les retombées concrètes de nos efforts pour la promotion des artistes québécois. Malgré ce fait d'armes uniques au Québec et même au-delà, les dirigeants de nos divers ordres politiques continuent de favoriser les GAFAM pour y diffuser leur actualité locale et y placer leurs investissements publicitaires. Pour quelle raison? Les GAFAM de ce monde couvrent-ils les activités des conseils municipaux et les événements sociaux, communautaires et culturels? Réalisent-ils des débats sur nos enjeux locaux? Diffusent-ils en primeur nos artistes francophones pour les faire découvrir et apprécier ou même simplement pour leur permettre d'être entendus dans le bruit du Grand Montréal? Diriger les citoyens vers les GAFAM pour la diffusion de leur actualité locale, ce n'est pas du développement durable. C'est appauvrir nos médias, nos milieux, nos artistes, déliter notre identité et, ultimement, notre démocratie locale. Pourquoi trop de nos élus entraînent-ils les citoyens ailleurs, sur les réseaux nationaux et les réseaux sociaux, au lieu de prioriser leurs médias locaux, dont leur radio locale? Ce comportement déracine nos valeurs sociales et culturelles localement, dirige quotidiennement l'attention du citoyen sur la dernière inspiration d'une personnalité en quête d'impact de visibilité personnelle maximale sur les réseaux sociaux, souvent avec des informations des plus banales. Et après, on se plaint que les citoyens s'intéressent si peu aux élections municipales et que les médias nationaux ne couvrent à peu près pas ou si mal ces événements. Au lieu de s'entêter à offrir des exclusivités aux réseaux nationaux afin de faire partie des trois nouvelles de la journée, pourquoi ne pas formater un message dirigé vers les citoyens afin qu'ils se sentent vraiment interpellés par la nouvelle d'une actualité locale qui les concerne? Cela pourrait raviver l'intérêt du citoyen vis-à-vis des vrais enjeux d'une démocratie qui le concerne. Les représentants des ordres gouvernementaux de proximité sont, par leurs actions, des leaders d'opinion pour l'ensemble des institutions locales, les commerçants, les organismes, les individus. Ils doivent donner l'exemple, promouvoir en priorité l'achat local. Ils doivent être une source d'inspiration et porter bien haut le drapeau de l'identité locale. Notre radio locale rappelle à chaque heure son appartenance territoriale, son identité propre, ses couleurs culturelles, divertit, informe et commente des actualités. Quel membre des GAFAM peut en dire et en faire autant? Avec un certain recul, on peut dire que nous ne vivons pas nécessairement une crise médiatique, mais un véritable virage numérique des médias, avec de nouvelles technologies devenues accessibles à tous. Ces changements amènent les radios locales à devenir des producteurs de contenus locaux, multiplateformes, avec un contenu audio en streaming, de l'écrit avec les actualités quotidiennes sur leur site Internet et en format vidéo, avec des contenus en balado pour permettre le rattrapage. Au FM 103,3, nous avons relevé le défi et nous sommes en mesure d'aller de l'avant, le pied dans le tapis, tout en restant flexibles et en regardant loin devant. Oui, notre communauté est en mutation. Les citoyens doivent faire rayonner leurs valeurs, leurs traits culturels et leurs coutumes afin d'inciter l'ensemble de nos diverses communautés à suivre ces mêmes repères sociaux pour une vie et une démocratie saine. La radio locale est présente, accessible, émotive, fidèle et en relation avec les valeurs des citoyens à qui elle est redevable. Nous posons alors la vraie question. Souhaitons-nous une démocratie branchée sur nos valeurs locales ou bien sur des serveurs californiens? Nos divers ordres gouvernementaux doivent montrer l'exemple. Investir ici, parler ici, rayonner ici. Parce qu'une société forte se construit avec ses propres voix. C'était une démocratie branchée sur nos valeurs ou sur des serveurs californiens. Un texte d'Éric Tétrault, publié le 25 novembre 2025 dans Le Devoir.
Pour un véritable musée national de la photographie au Québec, un texte de François Nadeau, paru le 2 février 2026 dans la presse. La mise en valeur du patrimoine photographique du Québec est à risque, selon le photographe François Nadeau. Ce dernier appelle à la création d'un espace pour préserver les souvenirs et le savoir-faire des photographes d'ici. Le Québec traverse actuellement une situation préoccupante en ce qui concerne la préservation et la mise en valeur de son patrimoine photographique. Les événements récents entourant le musée de la photographie Desjardins de Drummondville en sont une illustration frappante. Fraude fiscale orchestrée par une ex-employée, départ de la directrice générale, vacances prolongées de la direction, intérim, réflexion interne sur une mission à redéfinir, fermeture temporaire de l'institution jusqu'en février 2026, tous ces faits désormais publics ne relèvent pas d'un simple accident de parcours. Ils révèlent une fragilité structurelle. Ils exposent surtout un vide beaucoup plus large. Le Québec ne dispose toujours pas d'un véritable musée national de la photographie. Il est important de le rappeler avec justesse. Le musée de la photographie de Drummondville est né d'une réelle volonté de préserver et de faire connaître l'histoire de la photographie. Cette initiative mérite d'être reconnue, mais elle ne peut, à elle seule, porter la responsabilité d'un patrimoine national. Les difficultés actuelles démontrent au contraire à quel point il est dangereux de confier un enjeu culturel aussi fondamental à une structure locale, fragile, sous-financée et sans ancrage institutionnel fort. La photographie est pourtant l'un des piliers de notre mémoire collective. Elle documente notre territoire, nos communautés, nos transformations sociales, nos crises, nos élans, nos identités. Elle est à la fois œuvre d'art, archive historique, preuve, témoignage et langage contemporain. Le Québec possède un patrimoine photographique immense. Fonds de photographes, archives de presse, collections institutionnelles, pratiques documentaires, œuvres contemporaines, archives familiales. Pourtant, ce patrimoine est aujourd'hui dispersé, vulnérable, souvent mal conservé, parfois en train de disparaître sur des supports obsolètes, dans des conditions précaires, sans stratégie nationale cohérente. Chaque fonds perdu, chaque archive dégradée, chaque corpus non documenté est une part de notre histoire qui s'efface. Pendant ce temps, ailleurs dans le monde, la photographie est reconnue comme un pilier patrimonial. La France, à la BNF, le Jeu de Paume, Arles, l'Allemagne, l'Italie, les États-Unis, le Japon ont développé de grandes institutions photographiques avec des services de conservation, de recherche, d'éducation et de numérisation avancée. Un musée national ne se limite pas à produire des expositions. Il assume une mission fondamentale, conserver, acquérir, restaurer, cataloguer, contextualiser, numériser, diffuser et transmettre. Le Québec s'est doté de musées nationaux pour les beaux-arts, l'histoire et la civilisation. Il est incohérent qu'à l'ère de l'image, à l'heure où la photographie est au cœur de nos sociétés, il n'existe toujours pas d'institution nationale spécifiquement consacrée à ce médium. Un véritable musée national de la photographie devrait être un lieu de conservation de haut niveau, un centre d'expertise en photographie ancienne, moderne, numérique et hybride, un pôle de recherche et de documentation, un moteur de numérisation patrimoniale, un acteur éducatif majeur, une plateforme de diffusion et de rayonnement, et un gardien structurant de la mémoire visuelle québécoise. Il devrait travailler de concert avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec, les musées existants, les universités, les centres d'artistes, les communautés autochtones, les photographes, les médias et les municipalités. Il devrait soutenir autant le patrimoine que la création contemporaine, accompagner les photographes de leur vivant et assurer une transmission durable. Le problème n'est pas l'absence de créateurs. Le problème n'est pas l'absence d'archives. Le problème n'est pas l'absence d'expertise. Le problème, c'est l'absence d'une vision politique claire et d'une volonté ferme de doter le Québec d'une institution nationale à la hauteur de son patrimoine photographique. Les crises récentes ne doivent pas être traitées comme des incidents isolés. Elles doivent servir d'électrochoc. Il est temps de sortir la photographie du statut de discipline secondaire. Il est temps de cesser de gérer la pénurie et l'urgence. Il est temps de bâtir. Un musée national de la photographie n'est pas un luxe. C'est une infrastructure culturelle essentielle. C'est un outil de souveraineté culturelle. C'est un investissement dans la mémoire, l'éducation et l'identité. La question n'est plus « en avons-nous besoin ?» La question est « combien de pans de notre mémoire visuelle accepterons-nous encore de perdre avant d'agir ?» C'était, pour un véritable musée national de la photographie au Québec, un texte de François Nadeau, paru le 2 février 2026 dans la presse.
Quand l'autre devient l'ennemi. Un dossier de Marc Thibodeau, paru le 15 février 2026 dans la presse. Même si le procédé est vieux comme le monde, la stigmatisation de la différence et de l'étranger en particulier demeure un puissant outil pour les démagogues de tout acabit. Des facteurs relevant aussi bien de la biologie que de la psychologie, de la sociologie ou de l'économie ont été avancés pour expliquer son efficacité apparemment inépuisable. Nous et eux. Des spécialistes relèvent que le cerveau est configuré pour reconnaître efficacement la différence et sonner l'alarme, parfois même lorsque la menace est plus imaginaire que réelle. Le biologiste américain Robert Sapolsky raconte dans le livre Behave qu'il avait été fasciné, enfant, par le film La planète des singes et l'avait revu plusieurs fois, ce qui avait alimenté son intérêt professionnel subséquent pour la primatologie. Il dit avoir été émerveillé de nouveau plusieurs années plus tard en découvrant une anecdote relatée par l'une des vedettes principales, Charlton Heston, relativement au comportement des acteurs incarnant des gorilles et des chimpanzés. Même si la direction n'imposait aucune restriction de cette nature, les deux groupes tendaient à se séparer à l'heure du dîner, ce comportement reflétant, selon M. Sapolsky, une forte propension humaine à former des dichotomies entre « nous » et « eux », parfois sur la base de différences ténues. Dans l'ambitieux ouvrage datant de 2017, le chercheur, qui enseigne à l'Université Stanford, relève que le cerveau humain est remarquablement doté pour gérer ses divisions et peut, en une fraction de seconde, détecter des éléments entraînant une réaction divergente. Sur la base notamment de différences raciales rapidement appréhendées, l'amygdale, une structure neurologique jouant un rôle dans les mécanismes de peur et d'agression, peut être activée. Autre découverte déprimante, selon M. Sapolsky, la région du cortex spécialisée dans la reconnaissance faciale s'active moins face à un visage de couleurs différentes, ce qui explique que des personnes se souviennent mieux des détails de visages semblables aux leurs. Citation : On peut prétendre que l'on juge quelqu'un par son caractère plutôt que par la couleur de sa peau, mais le cerveau note la couleur diablement vite. Fin de citation, souligne Robert Sapolsky. Les humains, forts de capacités cognitives avancées, ne sont évidemment pas condamnés pour autant à être racistes, note le chercheur, qui explore aussi bien dans son travail la biologie de la violence, de l'agression et de la compétition que celle de la coopération, de l'empathie et de l'altruisme. Un autre chercheur américain, Stephen Hopfall, écrit dans Tribalism, ouvrage axé sur les origines évolutionnistes des politiques de la peur, que les êtres humains sont, citation, génétiquement prédisposés et formés culturellement pour défendre et agresser, voire se sacrifier, fin de citation, pour préserver la famille et la tribu. Le cerveau, souligne-t-il, a la capacité de traiter efficacement et rationnellement des informations complexes, mais peut tomber, lorsque la menace perçue est suffisamment grave, sous le joug de structures neurologiques primitives qui exigent une réponse plus rapide et décisive. Selon M. Hopfall, les démagogues qui martèlent avec insistance que la cohésion et l'avenir d'une population sont mis en péril par un autre groupe peuvent, dans un contexte de fragilisation économique et identitaire, en arriver à générer une réaction violente chez leurs partisans, même lorsque le risque est moindre que ce qui est annoncé. Citation : La xénophobie est l'une des prédispositions génétiques les plus marquées envers ceux qu'on ne connaît pas, l'autre, avec un A majuscule, parce que l'autre a été une menace constante dans l'histoire de notre évolution. Fin de citation, relève l'auteur. C'était « Quand l'autre devient l'ennemi », un dossier de Marc Thibodeau, paru le 15 février 2026 dans La Presse.